c'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire, eh bien faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux.
J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la marche des sciences avec aujourd'hui un duel de géants dans le monde des microbes.
J'ai été surpris de voir combien mes recherches sont connues en Allemagne. Grâce à elles, j'ai été reçu de la manière la plus cordiale et la plus distinguée, et je me suis procuré ainsi pour l'avenir des relations très agréables et fort utiles. Je les désire plus vif que jamais de connaître l'allemand.
Ainsi s'exprimait le célèbre Louis Pasteur dans une lettre adressée à son père en octobre 1852. Il avait alors 30 ans, mais la guerre franco-prussienne de 1870 allait bientôt rebattre les cartes et les sentiments, y compris ceux de cet homme, père de la microbiologie, qui devait se retrouver projeté dans une violente concurrence avec un jeune médecin allemand prometteur, Robert Koch. C'est l'histoire d'une rivalité tenace qui ne faiblira pas. D'un côté, le français Louis Pasteur, dont la mémoire collective a surtout gardé la découverte du vaccin contre la rage. Et de l'autre, Robert Koch, plus jeune de 20 ans, et dont le nom évoque le bacille de la tuberculose. Sur fond de guerre franco-prussienne, entre ultranationalisme et esprit de compétition, cette querelle que l'on aurait pu croire stérile et contre-productive fut en réalité à l'origine de la découverte de solutions contre les principales maladies infectieuses qui décimaient les populations d'alors. Comment a débuté cet affrontement entre Pasteur et Koch? Quelle forme a-t-il pris? Que doit-on à ces deux hommes en matière de microbiologie et de révolution médicale? Qui remporta la bataille? Quelles relations s'établirent entre les instituts français et allemands? Réponse avec nos deux invités en direct sur France Culture, Maxime Schwartz, biologiste moléculaire, ancien directeur général de l'Institut Pasteur, et Annick Perrault, ancien conservateur du musée Pasteur, et tous les deux sont auteurs du livre « Pasteur et Koch, un duel de géants dans le monde des microbes », un livre paru chez Audi Jacob. Et comme d'habitude, cette première partie d'émission sera émaillée de quelques archives, d'archives sonores de l'INA, grâce à Anaï Morales et Sandra Escamez, et puis surtout de textes lus en direct par le comédien Philippe Lodenbach. Et puis en seconde partie d'émission, carte blanche à Céline Duchesnay qui nous emmènera au CNAM pour l'exposition Culture TV, saga de la télévision française. Et elle nous offrira un reportage avec Monique Sauvage, co-commissaire de l'exposition, et Fabien Dumont, médiateur au CNAM. Mais tout de suite, ce duel de deux géants, Pasteur et Koch, sur fond de guerre franco-prussienne.
Quelle ignorance dans les chefs de notre armée sur l'état des forces respectives des deux nations! Oh, que nous avions raison, nous autres savants, de regretter la misère du département de l'instruction publique. La vraie cause de tous nos malheurs actuels est là. Je m'arrête. Tout cela me fait mal. Je m'efforce d'éloigner tous ces souvenirs et la vue de toutes nos misères, auxquelles je ne vois de salut que dans le désespoir d'une guerre à outrance. Je voudrais que la France résistât jusqu'à son dernier homme, jusqu'à son dernier rempart. Je voudrais la guerre prolongée jusqu'au cœur de l'hiver, afin que les éléments venant à notre aide, tous ces vandales, périssent de froid, de misère et de maladie. Chacun de mes travaux, jusqu'à mon dernier jour, portera pour épigraphe « Haine à la Prusse, vengeance, vengeance ».
Bonjour Annick Perrault.
Bonjour.
Bonjour Maxime Schwartz.
Bonjour Henri.
Alors là, Philippe Lodenbach a planté le décor puisqu'il était véritablement pasteur dans cet exercice-là. Ce pasteur qui, à cause de la guerre franco-prussienne, va devenir ultranationaliste finalement. Il était peut-être déjà avant, mais en tout cas, on sent cette rage qu'il a. Et cette rage, on va la sentir bien évidemment dans le duel qui va l'opposer à Robert Koch. Ce livre que vous nous proposez tous les deux, c'est un livre qui montre aussi que la perception de l'œuvre de Koch est limitée en France et vice-versa pour Pasteur en Allemagne. En tout cas, ce combat de géants, hein, bien planté dans cette atmosphère sur fond donc de guerre de 1870. Maxime Schwartz.
Oui, c'est certain. Je ne crois pas que le nationalisme de Pasteur était très, très
clair avant la guerre de 70, et comme l'extrait que vous avez entendu tout à l'heure le montre, il était plutôt germanophile au départ. Mais cette guerre qui est arrivée, alors que beaucoup de Français ne l'attendaient absolument pas d'ailleurs, même si Bismarck s'est arrangé pour que ce soit la France qui la déclare, cette guerre a bouleversé Pasteur, d'abord à cause de son sentiment quand même nationaliste de base, mais aussi parce qu'il était très proche de Napoléon III, et la chute de Napoléon III a fait une blessure terrible. Et puis alors la perte de l'Alsace et de la Lorraine, ça, comme beaucoup d'autres Français d'ailleurs, il n'a pas pu l'accepter.
Et il va même renvoyer à Nick Perrot son diplôme de docteur honoris causa décerné par l'université de Bonn, oui, décerné en 1868, et il le renvoie assez violemment. Et la réponse sera aussi violente d'ailleurs.
Oui, 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 toujours dans le style de Pasteur, extrêmement virulent. La cause en était que les Prussiens avaient bombardé le Muséum d'histoire naturelle à Paris, ce qui avait mis en rage Pasteur. Et donc, pour manifester sa réprobation, il renvoie ce diplôme de docteur honoris causa avec une lettre absolument terrible, enfin pratiquement d'injure vis-à-vis du Guillaume de Prusse. Et évidemment, le doyen va lui renvoyer aussi une lettre.
En lui exprimant tout son mépris de la même manière.
Tout son mépris de la même manière.
Bon, en tout cas, Pasteur va tirer une conclusion aussi de cette guerre, et vous le dites bien dans le livre, hein, c'est que la science qui irrigue le terreau sur lequel se construisent la médecine, l'industrie, l'agriculture, est aussi source de progrès, et que c'est le progrès qui fait un peuple fort, donc c'est ce qui va aussi le guider, et probablement dans cette lutte avec Robert Corps. Alors, vous nous donnez une image de Pasteur qu'on connaissait moins, c'est vrai qu'on a plus tendance à coller à Pasteur l'image du sage, on le découvre vraiment sous l'angle du combattant. Je vous propose d'écouter le témoignage de son petit-fils Louis Pasteur Valéry Radeau. C'était le 28 janvier 1957. Et voici ce qu'il disait justement sur le caractère de son grand-père.
Dans la discussion à l'Académie des sciences, à l'Académie de médecine, il était terrible vis-à-vis de ses adversaires. Il n'admettait pas que cette affaire fût dans l'erreur. Et très souvent, il y eut des discussions, on peut dire, terribles avec ses adversaires, alors que là, dans la vie intime, il était le plus doux, le meilleur et le plus tendre des pères et des grands-pères.
Annick Perrot, est-ce qu'on peut dire que ça a été une découverte, là, ce caractère-là, dans ce duel, de sentir que Pasteur pouvait être aussi virulent, voire violent, verbalement ?
Non, ce n'est pas une découverte, parce qu'il avait déjà eu, lors des communications à l'Académie des sciences, quand il affirmait quelque chose, d'abord il le disait lui-même, il n'avançait vraiment une chose qu'à partir du moment où il en était absolument sûr. Et il ne supportait guère la contradiction. Et déjà, il y avait déjà des duels entre guillemets aussi dans ces réunions d'Académie des sciences où s'il était contredit, et il le disait lui-même, je sors comme un diable de ma boîte, et là il était prêt aussi à ferrailler.
Maxime Schwartz, en tout cas là on a affaire à deux hommes de profils différents, hein, et de générations différentes. Donc on peut peut-être présenter Robert Corps, hein, né le 11 décembre 1843, sur des terres minières. Hein, finalement son creuset familial est intéressant peut-être à évoquer.
Oui, sa famille était de la région qu'on appelle le Harz, qui est dans le nord de l'Allemagne, près de Hanovre. Et son père était un ingénieur des mines. Soit dit en passant, un ingénieur des mines qui a passé quelques années en France, parce qu'il était de très grande qualité, avait attiré vers les Français. Et le fils aîné de son père, donc le frère aîné de Robert Corps, est né en France. Corps était de cette région minière. Il est arrivé à faire des études à l'université au nord de... comment c'était que je me souviens plus du nom, ça fait rien. Il a fait des études de médecine et comme il était amoureux d'une de ses cousines, il voulait pouvoir l'épouser, donc il fallait qu'il ait un métier qui lui rapporte de l'argent et il est devenu médecin de campagne. Et donc tout le début de sa carrière, c'était comme médecin de campagne et c'est comme médecin de campagne qu'il a fait ses toutes premières découvertes sur le charbon dont nous allons sûrement parler.
Mais oui, parce que finalement, depuis son enfance, il était attiré par l'observation de la nature. Je crois qu'il arpentait un petit peu les terrains, les vallées avec un oncle. Et en tout cas, c'est véritablement ce qui le motivait, c'était la recherche. Alors des hommes occupent déjà le terrain quand même de la recherche bactérienne, donc Pasteur en France et puis Ferdinand Cohn, microbiologiste allemand. Maxime Schwartz.
Oui, alors Ferdinand Cohn, effectivement, travaillait pas tellement loin de là où était Robert Koch. Ferdinand Cohn a été un des premiers à s'intéresser aux bactéries, qui étaient alors considérées comme des plantes, d'ailleurs. Et le premier journal qui a été créé par Ferdinand Cohn, c'était sur la biologie des plantes. Alors Koch, lorsqu'il a fait ses premiers travaux sur la maladie du charbon, eh bien, a souhaité consulter Ferdinand Koch et lui soumettre ses résultats pour savoir s'il valait d'être publié.
Eh bien, je vous propose d'écouter justement un document relatif à cette consultation. En tout cas, c'est la lettre de Koch envoyée à Ferdinand Cohn. Elle est datée du 22 avril 1876.
Très honoré professeur, j'ai trouvé très intéressant votre travail sur les bactéries publié dans Beiträge zur Biologie der Pflanzen. Depuis quelque temps, je travaille sur la contagion du charbon. Après de nombreuses vaines tentatives, j'ai finalement découvert le cycle de vie complet de Bacillus anthracis. Je suis certain maintenant, au vu des nombreuses expériences que j'ai effectuées, que mes conclusions sont exactes. Cependant, avant de publier mon travail, je souhaiterais vous demander, très honoré professeur, qui êtes le meilleur expert en bactéries, de bien vouloir examiner mes résultats et me donner votre avis sur leur validité. C'est pourquoi je vous demande très sérieusement si vous pourriez m'autoriser à venir vous rendre visite afin que je puisse vous faire démonstration des principales expériences. Si cette demande recevait votre accord, je vous serais obligé de m'indiquer quand je pourrais venir à Breslau. Bien cordialement vôtre, Robert Koch, Kreis Physicus.
Maxime Schwartz, lettre très importante, hein, puisque ce qui va se passer par la suite, c'est quand même la consécration pour Koch.
Oui, alors en fait, heureusement, Ferdinand Cohn va accepter la proposition de Koch, et Koch va s'embarquer dans le train avec ses cultures, ses souris, etc. Alors qu'est-ce que Koch allait montrer à Cohn ? Eh bien, le charbon, c'était une maladie qui décimait les troupeaux, que ce soit les moutons, les vaches à l'époque. Et il y avait déjà eu des indications obtenues en France que cette maladie était due à un microbe particulier qu'en France on appelait la bactéridie. Mais les résultats n'étaient pas entièrement probants. Alors Koch, donc, dans le salon où il recevait les malades il a fait des expériences. Et ces expériences, d'une part, ont montré qu'il arrivait à cultiver le microbe en question, qu'il pouvait trouver dans le sang des animaux. Une fois que ce microbe était cultivé, si on le réinoculait à un animal, il faisait des expériences sur des souris, qu'il attrapait d'ailleurs dans sa maison, il arrivait à donner le charbon à ses souris.
Et d'ailleurs, il a trouvé le moyen de faire la culture du bacille, hein, dans la cornée d'un lapin d'abord, parce que donc finalement, dans des gouttes d'humeur aqueuse, c'est quand même là aussi une avancée.
Comme il a vu que quand il l'injectait dans le lapin, ça se développait bien dans l'humeur aqueuse, ensuite voilà. Il s'est procuré de l'humeur aqueuse dans les abattoirs voisins, et c'est ça qu'il a utilisé comme milieu de culture. Mais ces cultures, c'était simplement des gouttes, puisque c'était des gouttes qu'il regardait sous le microscope après. Donc ça, c'était le premier élément de ces découvertes. Et le deuxième qui s'est révélé très important, c'est qu'il a constaté que lorsque le microbe avait tendance à arrêter de pousser, disons, il voyait apparaître des petites boules réfringentes, et il a compris que c'était des spores de la bactérie, donc des formes très résistantes de la bactérie. Or, ce point, c'est très important, parce qu'on avait déjà constaté depuis longtemps que lorsque des animaux mouraient du charbon dans un champ, eh bien ensuite, pendant des années, on voyait qu'à chaque fois qu'on remettait des animaux dans le même champ, ils attrapaient le charbon. Et personne ne comprenait pourquoi. Or, en fait, on enterrait les animaux sur place, et donc il y avait du bacille de charbon, mais ce n'était pas le bacille qui survivait, c'était les spores en question, très résistantes, qui restaient à la surface et qui ensuite étaient broutées, disons, en même temps que l'herbe par les animaux de l'année d'après, et c'est comme ça que le charbon se maintenait. Donc c'est finalement le plus important de ce qu'a montré Koch à l'époque, ça a été le fait que cette bactérie produisait des spores très résistants.
Donc à partir de là, on peut dire que c'est la consécration pour Koch, notamment en Angleterre d'ailleurs. Et alors on peut se dire, mais quel est l'élément déclencheur de la rivalité qui va se nouer là, sur ce terrain, avec Pasteur ? Annick Perrot.
Alors tout d'abord, c'est à la suite de cette découverte de la bactérie du charbon. Pasteur n'est pas vraiment convaincu. de cette découverte. Mmh. Il n'est pas le seul d'ailleurs. En Allemagne, Virchow aussi, qui est quand même l'un des grands maîtres aussi scientifiques, doute un peu. Et c'est un peu le déclic pour Pasteur, pour qu'il aborde aussi ces études sur le charbon.
Ah oui. Parce qu'il faut rappeler que Cor, quand même, c'est un petit médecin donc de campagne, et il fait tous ses travaux dans un laboratoire qu'il a monté, mais dans une pièce à côté, dans sa maison. Il y a sa fille et sa femme qui participent, qui lui trouvent des animaux, etc. C'est vrai que pour des savants qui avaient pignon sur rue et en plus des laboratoires avec des outils, lui a très peu de choses. Il a un microscope, mais donc il parvient à ce genre de découverte, d'où peut-être le doute.
Oui. Oui, parce que évidemment, Pasteur, il a derrière lui de grandes découvertes.
Oui, oui.
Il est déjà pratiquement proche du sommet de sa gloire.
Il a déjà travaillé sur les fermentations, démontré qu'elles étaient dues à des micro-organismes. Oui. On peut rappeler un petit peu, il a anéanti, vous le dites, la doctrine de la génération spontanée, trouvé les causes des maladies du vin. Il étudie les maladies infectieuses des vers à soie. Donc c'est vrai que c'est le parcours de Pasteur à ce moment-là.
Et précisément, quand il étudie la maladie des vers à soie, il va mettre en évidence qu'il y a aussi une forme de résistance, ces fameux spores. Et il va dire et redire que Cor n'est pas le premier à avoir montré ça et que Cor ne cite pas ses propres travaux. Que Cor ignorait peut-être d'ailleurs.
Alors finalement, c'est aussi une époque, Maxime Schwartz, et on peut se poser la question de la circulation des travaux et des informations. Si Cor ne cite pas Pasteur dans ses travaux, est-ce que c'était volontaire? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui d'ailleurs? Ou est-ce que c'est aussi parce qu'il n'a peut-être pas eu les informations en main?
Il y a eu un peu les deux. Je crois que dans un premier temps, probablement que Cor n'avait pas connaissance des travaux de Pasteur sur les vers à soie ou des travaux de Pasteur sur les fermentations, etc. C'était un autre domaine et Cor n'avait pas beaucoup de sources d'informations dans son cabinet médical. En plus, Cor ne parlait pas le français et d'ailleurs Pasteur ne parlait pas l'allemand. Donc tout ça ne facilitait pas les échanges. Donc il est probable que dans un premier temps, lorsque Cor a décrit les spores du charbon, il n'avait pas conscience que Pasteur avait déjà décrit des spores pour d'autres bactéries. Mais ensuite, après les premiers échanges qu'il y a eu entre Pasteur et Cor, Cor quand même l'a appris et à aucun moment il n'a signalé ce fait.
Il n'y fait ensuite référence,
donc,
c'est ça.
D'ailleurs, Pasteur s'exprima à ce sujet-là en disant « D'abord, en science, on est censé être au courant de tout », ce qui est un peu exagéré parce que lui ne savait pas trop non plus ce qui se passait en Allemagne probablement. Mais surtout, vous auriez quand même pu dire, une fois que vous l'avez appris, que vous n'aviez pas été le premier à découvrir les spores. Donc c'est ce genre de petite dispute, pas de très haute volée, qui a un peu déclenché tout.
Mais alors, la querelle, elle se joue où? Dans quel cénacle? Est-ce que ça se joue à travers des articles? Est-ce que ça se joue en public? Comment ça se passe, Annick Perrot?
Mais tout d'abord, ça va se déclencher lors du congrès de Londres, en 1881, où Pasteur arrive. Alors là, vraiment très très applaudi, c'est
honoré.
À tel point d'ailleurs que quand il rentre accompagné de son fils et de son gendre, il est un peu étonné, ou est-ce qu'il feint de l'être, de tous ces applaudissements, et il dit ce doit être pour le prince de Galles, et son gendre lui dit mais non, c'est vous qui êtes honoré, cher maître. Évidemment, encore, lui, petit médecin de campagne, malgré qu'il est...
Il est présent dans la salle,
il assiste
à cette entrée triomphale, en tout cas.
Et c'est Pasteur qui prend la parole lors de ce congrès. Et il cite à peine les travaux de Cor. Alors évidemment...
À son tour.
Cor est furieux. Et de là va partir, évidemment, toute une série de communications qui vont se... balancer les uns les autres et qui va nourrir la rivalité.
Alors on va prendre la mesure de la violence de cette rivalité. Non pas là ce qui s'est joué à Londres, mais peu de temps après, c'est-à-dire le texte à charge de Cor contre Pasteur qu'on retrouve dans le recueil des travaux de l'Office sanitaire impérial allemand fin 1881.
Pasteur ne sait pas distinguer le bacillus du charbon d'autres bacillus pathologiques qui ressemblent au bacillus anthracis comme longueur et comme largeur et peuvent produire des maladies semblables au processus charbonneux. Toute la description de M. Pasteur démontre qu'il n'a jamais eu sous les yeux la septicémie dans sa forme non compliquée. Une condition sine qua non de l'hypothèse de Pasteur est que les spores charbonneuses soient toujours enfouies très profondément dans la terre. Or, cela n'est pas. Il est douteux que dans les profondeurs du sol, on trouve la température nécessaire pour le développement des spores. Or, dans le sol de Berlin, à 3 mètres de profondeur, nulle part on ne rencontre la température nécessaire à la formation des spores. L'expérience de Pasteur dans la ferme de M. Monoury, outre qu'elle n'a pas de valeur, a même une teinte de naïveté.
Maxime Schwartz.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Maxime Schwartz, j'étais très pressée de vous donner la parole après un tel texte, bien évidemment, surtout qui finit avec cette teinte de naïveté. Puis il évoque aussi une expérience de Pasteur, il faut peut-être en parler, dans la ferme de M. Monoury.
Oui, c'est, ça a trait à ces fameux champs maudits dans lesquels le charbon réapparaissait chaque année. En fait, Pasteur s'était posé la question de savoir comment ces spores arrivaient à se maintenir aussi longtemps dans les champs sans être détruits par le soleil, la pluie, etc. Et alors, un jour, il a constaté qu'un endroit où on avait enterré un animal mort du charbon, il y avait ces petits tortillons qui sont faits par les vers de terre. Et alors là, il a eu une idée, il s'est dit, mais au fond, ce sont peut-être les vers de terre qui descendent au fond, qui vont aller ramasser des spores dans le cadavre de l'animal, qui vont revenir à la surface et qui vont rapporter ces spores à la surface. Et il a constaté qu'effectivement, dans les vers de terre qu'il pouvait récolter à cet endroit-là, il y avait des spores de Bacillus anthracis. Et ça, c'était une expérience très connue et qui expliquait que cette bactérie se maintienne aussi longtemps dans les champs. Alors, les arguments qui sont donnés par Cork ne tiennent absolument pas, parce qu'en fait, Pasteur n'a jamais prétendu que les bactéries se développaient quand elles étaient sous terre. En fait, ce qui se passe, c'est que la sporulation, la formation de spores se passe dans le cadavre, le sang, etc., qui sont relâchés par le cadavre, qui sont donc à ce moment-là en partie en surface, et les spores sont enterrés en même temps que le cadavre, et puis ils restent sans se développer, et ensuite les vers de terre vont pouvoir les ramener. Donc les arguments sur le fait que la bactérie ne peut pas se développer sous la terre, ni à Berlin, ni dans la ferme de M. Monoury, sont absolument sans valeur.
Alors, Annick Perrot, finalement, donc, est-ce que ces deux hommes vont se rencontrer, discuter à un moment ou un autre, dans ces années-là ?
Non. Non, ils ne vont pas se...
pas directement être mis...
pas directement, c'est-à-dire que
en position de
le fait que,
argumenter ensemble.
Que, Pasteur, que, pardon, que Robert Cor ait écrit dans ce recueil, ça va, et Pasteur va en prendre connaissance quelques mois après seulement, et étonnamment, il reste très calme, mais il se promet bien de répondre et, de lui, comme il dit, de lui donner une leçon de méthode. Mmh. Et l'occasion va se présenter... lors du congrès de Genève.
Qui se tient du 5 au 9 septembre 1882. Hein, j'ai relevé effectivement cette
date. Et devant encore un auditoire absolument... Enfin, c'est la fine fleur scientifique. Les grands scientifiques sont là. Et Pasteur, toujours avec cette extrême virulence, il va démolir tous les arguments de Robert Cor. Il l'attaque d'ailleurs nommément. Il réfute point à point tout ce qu'il a pu dire.
Cor
étant présent dans la salle. Et comme il est présent, eh bien, il l'invite à répondre directement. Alors, évidemment, comme l'évoquait Maxime tout à l'heure, il y a ce problème de langue.
Oui. Et Cor de compréhension, donc.
De la compréhension. Et puis, depuis un certain temps, on voyait Robert Cor se tortiller sur sa chaise. Il était très agité. On se demandait ce qu'il arrivait. Enfin... Bref, il monte quand même sur l'estrade et il dit qu'il ne peut pas argumenter immédiatement, mais qu'il se réserve de répondre par voie de presse. Alors tout le monde est un peu interloqué, Pasteur le premier, et puis dans la salle aussi. Enfin, on ne voit pas pourquoi cette réponse et puis pourquoi cette agitation. Mmh. Et en fait, on le saura, mais beaucoup plus tard, c'est que Pasteur n'a pas cessé de parler de ce recueil allemand.
Oui.
Alors que Cor a compris l'orgueil allemand.
Ah, d'accord.
Il en a été profondément touchée.
Toujours sur fond, comme on le dit, de ces relents-là, de cet ultranationalisme et des restes de la guerre de 1870.
Et puis de jalousie aussi.
Et la jalousie, bien évidemment. Tout ça faisait un cocktail sûrement explosif, on le comprend. Et je vous propose d'écouter un texte de réponse de Pasteur après Genève, parce que lui a pris la plume. Et voici ce qu'il disait précisément.
Pourquoi, monsieur, avez-vous caché tout cela au lecteur de votre premier mémoire ? Direz-vous que vous ignoriez l'existence de mon ouvrage sur la maladie des vers à soie, qui apparut en 1869-1870 ? Votre assertion serait sans portée. Car en fait, de science, nul n'est censé ignorer une découverte. Mais depuis 1877, que n'avez-vous eu d'occasion de revenir sur ces faits ? Vous vous êtes obstiné à n'en point parler afin de ne pas avoir à reconnaître que votre étude sur le bacille de charbon devait être considérée, malgré son mérite propre, comme une application nouvelle de principes antérieurs que j'avais déjà établis. En résumé, ce n'est pas vous, monsieur, qui avez trouvé le mode de génération des bacilles et vibrions par spore. Ce n'est pas vous qui avez signalé le curieux mode de formation. Ce n'est pas vous qui avaient reconnu leur conservation à l'état de poussière et la longue durée de leur vitalité.
Maxime Schwartz. Alors après, les altercations vont s'atténuer un peu, parce qu'il faut quand même préciser que Robert Koch, dans les mêmes moments, a démarré d'autres travaux de recherche ô combien importants. Il a commencé à s'intéresser aux bacilles de la tuberculose.
Oui, tout à l'heure, vous posiez la question de savoir si c'était parlé. En fait, on a la trace que d'une phrase dite par Pasteur Accord, c'était justement à l'occasion du congrès de Londres, où Pasteur a dit à Accord, c'est un grand progrès, monsieur. Voilà tout ce qu'il y a eu comme échange direct. Toutes les autres choses se sont faites par ces intermédiaires de communication et d'articles, etc. Et alors, si je rappelle ce point-là, c'est qu'en fait, on oublie souvent que Accord a fait faire un progrès considérable à la bactériologie en introduisant de nouvelles techniques. Et c'est justement grâce à ces nouvelles techniques qu'il va découvrir le bacille de la tuberculose, etc. Et ces nouvelles techniques étaient d'une part au niveau microscopique, améliorer le microscope, trouver le moyen de faire des photos de bactéries en utilisant le microscope, et puis surtout à trouver le moyen de pouvoir isoler des bactéries dans un mélange en faisant ce qu'on appelle la culture sur milieu solide. En effet, si on a une culture de bactéries, qu'on la dilue suffisamment et qu'on l'étale sur un milieu nutritif solide, une gelée, chaque bactérie individuelle va donner une colonie et à partir de cette colonie, on peut faire une culture pure qui provient de la bactérie qui était à cet endroit-là. Donc même si on a au départ un mélange de bactéries, grâce à ça, on arrive à avoir des cultures pures de chacune des espèces bactériennes qu'il peut y avoir. Et ça va être capital dans la suite des travaux de microbiologie en général. Alors c'est grâce à l'emploi de ces deux techniques, à la fois de microscopie et d'étalement sur milieu solide, que Koch va pouvoir isoler le bacille de la tuberculose. Or, la tuberculose, c'était une maladie épouvantable à l'époque. Oui. On la connaît toujours aujourd'hui, mais dans nos pays, il y en a très peu.
Ah, je rappelle, peut-être, je donne des chiffres, mais un quart à un cinquième des victimes en Europe l'étaient à cause de cette maladie.
C'est ça, des morts étaient dues à cela. Donc, tout le monde connaissait dans son entourage des gens morts de tuberculose. Donc, c'était une maladie épouvantable. On ne savait pas jusqu'à Koch quelle était la cause. En fait, c'est une bactérie très petite, particulièrement difficile à voir. Et donc, Koch est arrivé à détecter cette bactérie dans les organes d'animaux qui avaient la tuberculose. Il a pu cultiver cette bactérie et montrer que quand on inoculait cette bactérie à d'autres animaux, on leur donnait la tuberculose. Donc ça a été la découverte du bacille de la tuberculose qui est la découverte, disons, qui a vraiment fait la célébrité de Robert Koch.
Oui, et je précise que d'ailleurs, dans ces époques-là, en tout cas en juin 1882, il devient conseiller intime du gouvernement impérial nommé par l'empereur Guillaume Ier. C'est vrai, c'est dire la stature qu'il avait quand même acquis dans son pays.
Thank you.
14h32 et c'est la suite de la Marche des sciences sur France Culture sur cette chanson de Mina Tindall, Je sais. Nous sommes en compagnie de Maxime Schwartz, biologiste moléculaire, ancien directeur général de l'Institut Pasteur, et Annick Perrault, ancien conservateur du musée Pasteur. Et tous les deux ont commis un très beau livre intitulé Pasteur et corps, un duel de géants dans le monde des microbes, un livre paru chez Odile Jacob. Et on peut signaler d'ailleurs que c'est un livre qui a été précédé d'un autre livre dont on avait parlé dans l'émission La Marche des sciences, Pasteur et ses lieutenants. Et là, on va en prendre toute la mesure aussi, puisqu'on va parler des lieutenants de Pasteur dans quelques instants, et toujours à nos côtés, le comédien Philippe Laudenbach. Alors, on a parlé précédemment, Maxime Schwartz, des avancées formidables dans cette querelle, donc sur le plan des techniques et des outils. En tout cas, cette guerre des deux hommes va se poursuivre jusqu'au bout. Cor va être nommé professeur de la nouvelle chaire d'hygiène à l'Université de Berlin en mai 1885. Il va devenir directeur de l'Institut d'hygiène de Berlin en juillet. Et puis, ben, dans ces moments-là, donc, Pasteur, lui, s'est engagé dans une toute autre recherche et qui va marquer le siècle, c'est la recherche du vaccin contre la rage. Avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter une dernière archive sonore de l'INA. C'est le témoignage de Joseph Mester. 1er mars 1939, il témoigne de l'époque où, à l'âge de 9 ans, il a été le premier à recevoir le vaccin.
C'était en 1885. À cette époque, M. Pasteur avait beaucoup d'ennemis, surtout dans le monde médical. Dans les hôpitaux, on refusait de me donner son adresse et l'on voulait me garder pour me soigner. Mais ma mère insista tellement qu'on finit par nous envoyer à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm où travaillait M. Pasteur.
Car, bien entendu, l'Institut Pasteur n'existait pas à ce moment-là. Mais dites-moi, comment le grand savant vous accueilla-t-il?
M. Pasteur était très ému. Il n'avait jamais fait d'expérience de son vaccin autrement que sur les animaux. Mais ma mère insista, faisant valoir que puisque j'étais condamné, je n'avais rien à craindre et qu'on pouvait essayer sur moi le seul traitement qui existait. Il a en effet parfaitement réussi et c'est ainsi qu'on a la preuve formelle que M. Pasteur avait bel et bien trouvé le remède de la rage.
Annick Perrault, vous voulez réagir? Vous disiez que c'est un témoignage que Joseph Mester avait enregistré parce que lassé peut-être, comme vous le disiez, hein, de finalement de répondre à tous les journalistes. On sent qu'il lit un peu son texte, mais ça reste toujours un témoignage émouvant de ce. On imagine hein, ce petit garçon de 9 ans qui arrive et qui ne sait pas si, enfin, quel sera peut-être l'effet du vaccin sur lui.
Oui, c'est un. Il arrive et il va ressortir en héros. Ouais. C'est vrai que c'était très risqué, même de la part de Pasteur, de tenter ce vaccin. On rappelle d'ailleurs que Pasteur, n'étant pas médecin, il avait pris conseil auprès de ses amis médecins, oui. Cranchet et Vulpian, oui. Et qu'il l'avait aussi encouragé. Peut-être que la mère de Meister l'avait encouragé, mais enfin, les médecins aussi étaient formels. Si on ne tentait rien, Meister était condamné. Oui. Et Meister est guéri. Et il deviendra d'ailleurs gardien à l'Institut Pasteur.
Et on oublie souvent celui qui, en octobre, quelques mois après, a été vacciné. Le deuxième, hein, c'est un jeune berger de 15 ans, Jean-Baptiste Jupille. Bon, en tout cas, dans ces moments-là, il y a réticence des Allemands aussi sur les résultats. Mais finalement, la querelle entre Pasteur et Cor, Maxime Schwartz, va plutôt se jouer sur les terrains, enfin, entre les instituts, l'Institut Pasteur et puis l'Institut en Allemagne que dirige Cor. C'est à travers les lieutenants des uns et des autres que, et sur le terrain dans le monde que le duel va continuer.
Ben, la querelle proprement dite, ça a vraiment été Pasteur et Cor. Ensuite, on pourrait plus parler de rivalité entre l'école française donc créée par Pasteur et l'école allemande créée par Cor. Et cela va se voir par la suite. C'est vrai que pour la rage, les Allemands et probablement encore n'y croyaient pas trop. Et les Allemands ont fait une enquête pour s'assurer que le chien qui avait mordu Meister était vraiment enragé. Et il y a une lettre d'ailleurs de Pasteur à Meister en disant bon, c'est ces Allemands jaloux qui font cette enquête. Bon. Alors ensuite, donc après cet épisode de la rage, où il n'y a eu donc pas vraiment de querelle, c'est vrai qu'il y a eu une rivalité entre les deux écoles qui va se manifester tout particulièrement dans le cas des travaux sur la diphtérie et ensuite sur la peste.
Oui.
Et on avait déjà mesuré précédemment sur d'autres terrains. Par exemple, vous évoquez dans le livre les terrains d'épidémie comme en Égypte avec le choléra en juillet 83 ou en juin 1884, l'épidémie de choléra à Toulon. Donc là on sent cette concurrence, cette compétition entre les instituts. Mais l'affrontement, donc, Annick Perrot, se joue donc par élève interposé à Hong Kong, où la peste sévit, par exemple. C'est entre Alexandre Yersin et Kitasato, qui est le japonais du laboratoire de Cor.
De Cor. Oui, c'est-à-dire, on peut dire que c'est le Suisse de Pasteur, Yersin, et le Japonais de Cor, Kitasato. Et donc, comme une épidémie a éclaté dans la province du Yunnan, donc ils vont se retrouver. Enfin, en fait, Yersin a choisi d'aller à Hong Kong, et les Japonais y sont déjà installés. Et là, c'est la vraie rivalité, chacun cherchant de son côté. C'est ce que souhaite d'ailleurs Yersin.
Course à la découverte. Quoi.
C'est une course à la découverte. Malheureusement, ce n'est pas très équitable parce que l'équipe de Kitasato a beaucoup de facilité venant de la part des Anglais, alors que Yersin est obligé et contraint de construire une petite paillote tout près avec des instruments très rudimentaires. Et au final, ce sera Yersin qui va découvrir le bacille. Mais toutefois, Kitasato aura du mal à le reconnaître. Il va même prendre la découverte pour l'annoncer avant même que Yersin n'ait fait sa propre communication.
On arrive au terme de cette première partie de l'émission. Je vous propose d'écouter comme dernier texte le message de condoléances au moment de la mort de Pasteur. Je rappelle que Louis Pasteur est mort le 28 septembre 1895. Et voici ce que disait le message de Cor.
Profondément ému par la perte universellement sentie que l'Institut Pasteur vient de faire dans la personne de son génial fondateur, l'Institut berlinois des maladies infectieuses envoie sa participation intime à la douleur générale.
Maxime Schwartz, est-ce que ce genre de message a apaisé par la suite les relations ou ça a perduré quand même
Non, quand même, les choses se sont quand même apaisées. Par exemple, Roux, qui a joué un rôle très important dans la lutte contre la diphtérie en mettant au point en France ce qu'on a appelé la sérothérapie pour lutter contre la diphtérie, alors que Bering en Allemagne de l'école de Cor faisait un peu la même chose, eh bien les deux étaient en rivalité, mais pourtant Roux est devenu en quelque sorte ami avec Bering au point qu'il a été le parrain de son premier fils. Et ensuite, Cor a été accueilli à l'Institut Pasteur avec sa nouvelle femme parce qu'il a.
Il y a toute une histoire que vous nous livrez.
Assez intéressante.
Dans votre
Cor a été accueilli à l'Institut Pasteur avec tous les égards dus à son rang.
Et on laissera nos auditeurs découvrir la suite, le reste. En tout cas, tout ce détail dans votre livre. À tous les deux, Maxime Schwartz et Annick Perrot, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Pasteur et Cor, un duel de géants dans le monde des microbes, paru chez Odile Jacob. Merci Philippe Lodenbach d'avoir joué ainsi Pasteur aujourd'hui, et Cor à la fois. Et je veux vous signaler aussi, avant de finir, un colloque sur les instituts Pasteur au Maghreb, des origines aux indépendances, organisé par le laboratoire Sphère de l'Université Paris Diderot. C'est au 28 rue du Docteur Roux, dans le 15e arrondissement de Paris. Donc c'est un colloque là à venir dans les 3 jours. Et le lien sera sur notre site franceculture.fr. Vous restez avec nous. On va partir dans quelques instants au Musée des Arts et Métiers.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Actualité des sciences et de leur histoire avec une information majeure donnée vendredi dernier, l'annonce de la mort du mathématicien de génie Alexandre Grothendieck. Son nom ne dit peut-être pas grand-chose à certains et pour cause, puisqu'il avait choisi de se retirer du monde en 1990. Mais il fut certainement le plus grand génie des maths du XXe siècle et qui d'ailleurs, il faut le souligner, à l'orée de sa thèse, eh bien il avait réussi à résoudre en quelques mois 14 problèmes mathématiques majeurs qui auraient dû lui prendre des années. De l'analyse fonctionnelle à la géométrie algébrique, il bouleversa la manière de faire et de penser les mathématiques. Alors c'est le sujet de l'archive du jour, choisi par Anaï Morales. Et même si aucune archive sonore n'existe de lui, on a choisi de vous faire entendre les propos tenus à son sujet par quelqu'un qui l'a bien connu, le mathématicien Pierre Cartier. C'était le 25 juillet 2001 dans l'émission À voix nue.
Grothendieck, qui avait eu l'enfance d'un proscrit, parce que son père était un révolutionnaire professionnel russe qui avait bourlingué dans toute l'Europe, fait toutes les révolutions des années 10, 20 et 30. Comme son fils me l'avait dit, c'est le « who is who » de la révolution, mon père. Donc, il a vécu une vie de proscrit. Son père était un apatride, sa mère était une juive allemande qui avait dû quitter l'Allemagne. Lui-même a eu une enfance très, très chaotique, y compris une série d'internements dans les camps français à partir de décembre 1938 jusqu'à 1941-1942. Son père n'y échappera pas puisqu'il sera envoyé directement à Auschwitz et lui et sa mère seront sauvés par les protestants des Cévennes. Donc, je pense que le choc pour lui, c'est qu'en 1966, quand il a la reconnaissance internationale qui va avec la médaille Fields, remise lors du Congrès mondial des mathématiques à Moscou en 1966, revenu dans le pays de son père, il est fêté à Moscou internationalement et lui, qui était un proscrit, se découvre une des stars du système scientifique mondial. Et en 68, les étudiants lui feront réaliser que lui, qui se croit toujours un révolutionnaire, il n'est qu'un mandarin de plus. En tout cas, il n'est perçu que comme un des mandarins de plus. Et je pense que c'est l'ensemble de ces expériences psychologiques qui l'ont fait craquer. Et du coup, bon, il va rompre avec le milieu scientifique. Il aura ensuite une vie beaucoup plus chaotique. Ouais. Ça ferait une émission en soi.
Alexandre Grothendieck, mathématicien, il fut aussi un farouche pacifiste et écologiste. Né le 28 mars 1928 à Berlin, il est mort jeudi 13 novembre à l'âge de 86 ans en Ariège où il s'était retiré, isolé de tous. Et le parcours et l'œuvre de cet homme est un roman en soi. Pierre Cartier disait ça ferait une émission. Et bien justement, on l'a programmé dans la marge des sciences. La semaine prochaine, l'émission lui est consacrée et nous serons avec les mathématiciens Pierre Cartier, Michel Demazur et Leila Schneps. Autre information, on apprend grâce à une dépêche AFP datée du 13 novembre que la rose de Verdun renaît grâce à un lycée horticole des Vosges. Cette rose faite de petites fleurs fuchsia tirant vers le violet est issue d'une hybridation avec le petit polyanta qui remonte à 1875 et une autre variété aussi inconnue. En tout cas, elle avait été créée en 1918 par les frères Barbier à Orléans pour honorer les 163 000 combattants français tombés lors de la bataille de Verdun en 1916. Elle fleurissait les tombes des poilus, mais elle était tombée dans l'oubli, et bien retrouvée il y a quelques années par hasard par un Verdunois, Marc Petit, dans la roseraie de L'Aille-les-Roses en banlieue parisienne. Alors il fallut d'abord se procurer des plants, pas facile, la roseraie du Val-de-Marne n'en vendait pas, on en a trouvé via l'association Agir pour le Verdunois, on en a trouvé dans le Maine-et-Loire à Rosiers-sur-Loire, on les a achetés, et puis le lycée horticole de Rauville au Chêne dans les Vosges les a multipliés, Paris réussi, aujourd'hui on en attend entre 200 et 300 pieds. Et puis l'actualité des sciences et de l'histoire, c'est aussi la carte blanche de Céline Duchesnay que nous sommes ravis de retrouver. Bonjour Céline.
Bonjour Aurélie.
Votre carte blanche aujourd'hui, je crois, est consacrée à une exposition qui se tient en ce moment au Musée des Arts et Métiers à Paris.
Oui, cette exposition s'intitule « Culture, TV, saga de la télévision française » et retrace l'histoire de la télévision. Une histoire sociale et culturelle, tant cet objet incontournable a façonné l'imaginaire collectif de nombreuses générations, mais c'est aussi une histoire technique à laquelle je vous convie, faites de prouesses et d'inventions qui répondent toutes à cette question « Comment voir à distance ?». Ainsi, si vous voulez découvrir les ancêtres de la télévision actuelle, que ce soit le pantélégraphe, le bélinographe ou la télévision mécanique, une direction une seule, le Musée des Arts et Métiers, avec comme guide Fabien Dumont, médiateur au musée, et Monique Sauvage, co-commissaire de l'exposition.
Donc c'est moi qui serai votre guide pour cet après-midi dans l'exposition Culture TV. On va parcourir ensemble l'histoire de la télévision. C'est une histoire qui est assez courte finalement, puisque la télévision en France, ça remonte à il y a 80 ans de manière officielle pour les débuts et 90 ans pour les débuts de la télévision de manière générale, puisque ça va plutôt commencer en Angleterre. Alors déjà, le terme télévision est quand même assez récent. Il a été utilisé pour la première fois en 1900. C'était à l'exposition universelle de Paris. Ça a été utilisé par un physicien d'origine russe qui s'appelait Konstantin Persky pour qualifier des techniques permettant de transmettre des images à distance par le biais de l'électricité. Et ça, c'est une recherche qui a débuté déjà dès le milieu du 19e siècle.
Soudain, le président s'affaisse.
Dans les années 1850, on va avoir l'abbé Giovanni Caselli, qui va créer un dispositif qu'on appelle le pantélégraphe. Ça ressemble à comme des sortes de grandes antennes. Un dispositif émetteur, un dispositif récepteur. Et grâce à des principes de réaction électrochimique, on va pouvoir transmettre à distance entre l'émetteur et le récepteur un document qui pouvait être un texte ou encore un dessin, une gravure. Ici, ce qu'on retrouve dans l'exposition, c'est un petit peu l'évolution du pantélégraphe de Caselli. Donc au travers d'un objet qu'on appelle le bélinographe. Donc, c'est une invention française, ça a été créé par un certain Édouard Belin dès 1907. C'est un appareil de téléphotographie parce qu'il va être entre le domaine de la télégraphie, la transmission à distance, et le domaine de la photographie. Il était principalement prévu pour cela, pour transmettre à distance une photographie d'un bélinographe émetteur à un bélinographe récepteur. Les deux étaient reliés par les fils du téléphone. On utilisait le téléphone pour transmettre l'ensemble d'une image à distance. C'est la base de la télévision, c'est l'analyse séquentielle de l'image. On est d'accord ici, on transmet une image fixe à distance par le biais du bélinographe. Lorsque vous regardez la télévision, vous visualisez des images qui sont animées. Mais vraiment, si on décompose ces images animées, vous voyez des images fixes défiler les unes à la suite des autres de manière relativement rapide. Puisque quand vous allez regarder la télévision, vous allez observer 25 images en l'espace d'une seule seconde. Donc, ici on se retrouve devant donc des prototypes du domaine de la télévision mécanique. Donc vous avez d'un côté la caméra qui va me servir d'émetteur ici. D'un autre côté, vous avez le téléviseur qui va me servir de récepteur. Alors maintenant, je vais vous demander, involontaire parmi vous, d'être devant la caméra. Donc en fait, ce que je vais devoir régler ici, c'est mon image, parce que pour l'instant, j'ai 4 images différentes en fait sur mon écran de télé. Donc là, c'est ce que je vais faire. Alors là, c'est parfait. Est-ce que vous pouvez faire coucou ?
Alors, qu'est-ce que vous voyez, monsieur ?
On voit le personnage, mais la qualité, oui, ça n'a rien à voir avec nos téléviseurs. Hein. C'est assez archaïque. Ouais. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de lignes, c'est pas très net. C'est...
Ouais. Du noir et blanc ou de la couleur ?
Noir et blanc, oui. Et puis, pas bien précis. Il y a des taches blanches, c'était pas...
Comment dire ? C'est loin d'être net, effectivement. L'impression que c'est un puzzle qui est parsemé. Enfin, c'est une image, oui... très saturé, loin de la netteté qu'on a maintenant avec l'HD, oui, effectivement.
La première véritable émission de télévision en France, 26 avril 1935 pour être précis, eh bien on pouvait observer l'image d'une comédienne de l'époque qui s'appelait Béatrice Bretti. Tout le monde va être totalement subjugué par l'image qui va apparaître sur les postes récepteurs de l'époque, des images apparaissant en 60 lignes de définition. Il faut imaginer que Béatrice Bretti était très maquillée de manière à ce que les contrastes soient suffisants sur l'image télévisée, sur l'image transmise. Donc en fait, elle était principalement fardée de blanc, elle avait les yeux cernés de noir et la bouche noire également, de manière à ce que les traits de son visage ressortent suffisamment. À l'époque, il fallait une trentaine de projecteurs dans le studio de télévision. Alors imaginez la chaleur qu'il faisait à l'intérieur. Ça montait très très vite à 45-50 degrés. On était, en termes de luminosité, à 15 000 lux. Quand vous êtes l'été en plein soleil, c'est 20 000. Donc imaginez 15 000. Dans le studio, imaginez Béatrice Bretti en train de parler pendant 20 minutes avec cette chaleur. En fait, elle a affirmé qu'elle avait l'impression que son cerveau allait bouillir justement durant ces 20 minutes de représentation à l'époque.
Bonjour mesdames, bonjour mademoiselles, bonjour messieurs.
Monique Sauvage, je suis historienne de la télévision et co-commissaire avec Isabelle Véramasson de cette exposition consacrée à l'histoire de la télévision française au musée du CNAM.
Cette exposition est racontée comme une saga, c'est une saga qui est à la fois technique et historique. Alors comment se mêlent les deux ?
Oui, c'est d'abord une affaire de pionnier au début, voir de loin montrer des images de loin, transmettre des images, c'est un rêve aussi vieux que de voler dans l'humanité. Et d'ailleurs, les pionniers de l'aviation et les pionniers de la télévision, quelquefois, croisent leurs inventions.
Donc, des inventions technologiques et qui sont liées à des événements historiques.
Oui, la première télévision de Barthélemy est mise au point en 1935. Georges Mandel demande que la télévision soit exploitée de façon continue et officielle dès la fin de l'année, parce qu'il est sûr qu'il sera ministre encore à peu près jusqu'au mois de décembre, mais peut-être pas au-delà. Et donc, la télévision démarre de cette façon. Mais les événements déclencheurs seront, après la guerre, surtout, des grands événements, le mariage de la reine d'Angleterre et son couronnement surtout, seront des éléments déclencheurs d'achat, par exemple, de récepteurs de télévision. Il y avait 1 million de récepteurs en 1958 seulement en France, 250 000 en 55, 1 million en 58 et 10 millions en 1968. Dès le début des années 58, on voit à quel point, par exemple, même dans le cadre d'une télévision tout à fait sous contrôle gouvernemental, un magazine comme 5 colonnes à la une a accompagné pas à pas l'évolution de la société française sur le conflit algérien. Les équipes, d'ailleurs, utilisent tous les progrès techniques. La caméra coûtant, qui est plus légère, la pellicule Tri-X, qui ne nécessite pas de lumière, qui permettent d'aller sur le terrain. Toutes les innovations techniques se font à l'occasion du sport. Le Tour de France, les premiers directs, les premiers ralentis. Ça, c'est un phénomène social tout à fait important qui est directement lié à des évolutions techniques dans ce média.
Et y a-t-il, Monique Sauvage, dans l'exposition, un téléviseur en particulier auquel vous êtes particulièrement attachée ?
Moi, j'adore le Ducreté Thompson de 53, sur lequel les foules en grappe devant les galeries Lafayette ont regardé le couronnement de la reine d'Angleterre. Ça, celui-là est vraiment tout à fait charmant. Il y a également un téléavia oblong qui a beaucoup marqué par ses formes un peu futuristes. Je suis aussi très, très sensible au téléviseur de Baird et à celui de Barthélemy. Et puis aussi le Visiodyne de Marc Chauvière en 1935, qui était livré en kit pour le public, était un très bel objet, une petite ébénisterie très, 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 très légère.
Merci, Solange Pelletier. Bonjour, mesdames, bonjour, mesdemoiselles, bonjour, messieurs.
Culture TV, donc à découvrir en ce moment au CNAM à Paris et ce jusqu'au 8 mars 2015. L'occasion de découvrir l'histoire de la télévision à travers ses prouesses techniques, mais aussi à travers les émissions phares de son histoire, des archives et des témoignages.
Et merci Céline, merci à tous vos participants. Et je souligne que les informations et les liens sont à retrouver sur le site internet de l'émission franceculture.fr, rubrique La Marche des Sciences. Puis vous allez sur Archive, vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours ou mieux la télécharger pendant un an. Et c'est la fin de la marche. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On en est tous très fiers, bien sûr. Et merci à toute l'équipe. Catherine Donnet, Catherine Decopé, Céline Duchesne, Anaï Morales, Sandra Escamez et Marianne Joly, ainsi que Janine Vital de la documentation sonore de Radio France. À la réalisation, Alexandra Malka. À la technique, aujourd'hui, Bruno Gagnère-Fontanille. Et la semaine prochaine, donc je vous le rappelle, émission spéciale Alexandre Grothendieck, mathématicien de génie qui vient de mourir, mais on fera retour sur sa vie, son œuvre. Et nous serons en compagnie de Pierre Cartier, Michel Demazur et Leïla Schneps.